le savez, sur ces dimanches. C'est une église. Selon le cœur de Dieu, nous voulons non pas aller à l'église, nous voulons être l'église selon le cœur de Jésus. Jusqu'à présent, je fais un tout petit rappel pour que, comme on avait fait une pause la semaine dernière pour Pâques, que vous puissiez avoir un petit peu un global. On a vu que l'origine, le fondement, on a développé la question de la composition miraculeuse de l'Église, des hommes de toute nation, de toute langue, de toute couleur de peau, de tout arrière-plan culturel, social, de toute langue, de toute ethnie, etc., etc. Des gens qui... C'est une folie de Dieu, n'ont rien à faire ensemble, n'ont rien en commun. Des gens qui, humainement parlant, n'ont rien à faire ensemble parce que tous les éloignent naturellement, mais qui sont miraculeusement par Jésus-Christ, qui sont un. Et nous avons vu ensemble quels sont les fondements spirituels qui constituent l'unité de l'Église. Savoir que nous avons le même Père, le même Sauveur, la même grâce, le même sang. Nous avons les yeux fixés vers le même ciel, d'où nous attendons le même Seigneur. Nous avons été purifiés par le même Esprit. Nous avons pris le même baptême. Et on a considéré ensemble qu'il y a ici un fondement, un socle commun, mais qu'il fallait encore aller plus loin pour vivre l'unité, pour être l'Église au sens où Jésus la conçoit. Savoir évidemment que le socle commun, c'est très bien, mais combien de pasteurs, de disciples, combien d'anciens, de chrétiens dans les églises ont le même Sauveur, le même Père, ont la même espérance, la même Bible, le même Esprit. Il y a un socle, mais en réalité, combien de divergences? Combien de manque d'unité? Qu'est-ce qui peut bien manquer alors que normalement on a une base commune? Eh bien c'est très simple, c'est qu'une fois qu'on a une base, c'est parfait, mais ensuite il faut construire dessus. Et là où on commence à construire, c'est là que beaucoup d'enseignements de l'apôtre Paul nous interpellent, où Paul va vraiment insister sur le caractère des disciples. On n'a pas seulement le même Sauveur purifié par le même sang, sorti de ce même monde de ténèbres, etc. Nous avons ce même appel, bien-aimé, cette vocation commune qui doit être la priorité numéro un de chaque disciple sans exception. La priorité absolue de ma vie, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Et que chaque chrétien tende vers le caractère de Christ, c'est comme ça que, selon ce que dit Paul aux Philippiens, on l'a vu, c'est comme ça qu'on peut être un même sentiment, une même âme, un même cœur, une même pensée, avoir le même caractère, Christ, en tout et en tous. Paul aux Colossiens, que Christ soit tout et en tous. Ça, c'est la recette secrète pour que l'Église soit le paradis sur la terre. Et vous prenez des disciples, qui sont tous sur la même base commune, comme ici, regardez, vous avez une chape commune, mais on peut être à différents endroits de cette chape, de ce socle commun. Mais si tout le monde tend vers ce but, si tout le monde dans l'Église, et ce n'est pas ainsi parce que c'est mon appel, j'insiste, c'est la priorité de ma vie, logiquement, que chaque jour je ressemble de plus en plus au caractère de Jésus, je tends vers sa ressemblance. Et à ce moment-là, quand les disciples commencent les uns et les autres à tendre vers Christ, naturellement, nous arrivons ici, et c'est ce que nous avions développé, l'humilité, c'est ça la clé de voûte de l'unité. En architecture, la clé de voûte, c'est ce qui assure, c'était une technique architecturale de l'époque, c'est ce qui assure la stabilité de l'ensemble et qui garantit que ça ne va pas s'effondrer. Puis nous avons parlé aussi, bien sûr, de tous les bienfaits de l'unité dans l'Église, dans nos cœurs et dans nos vies. Je veux considérer avec vous aussi, dans les dimanches qui viennent, cette réalité spirituelle, cette vérité que l'on trouve dans le Nouveau Testament et très souvent dans l'enseignement de Paul, les uns les autres. C'est vrai que si nous avons, puisque, en tant que membres du corps, nous avons tous une relation directe avec la tête qui est Christ. Chaque membre de votre corps a une relation directe avec la tête. C'est ce qui fait au miracle de mon corps que je peux bouger mon petit doigt sans bouger le reste. Parce que chaque membre, même les doigts de pied, vous ne les voyez pas, mais ça marche aussi, vous pouvez essayer. C'est en réalité parce que chaque membre a une connexion directe avec la tête. Chaque disciple de Jésus a une connexion directe avec Christ, la tête du corps miraculeux qu'est l'Église. Mais, il est aussi indispensable de considérer que les membres ont des interactions les uns avec les autres, que nous avons des relations. Et là, très souvent, Paul va employer cette expression « les uns les autres », « les uns les autres », « les uns les autres ». Parce que dans mon corps, oui, les membres ont une connexion directe avec la tête, mais les membres sont interdépendants les uns des autres. Si vous avez un doute, venez me voir après le culte. Je vais vous écraser le pied d'une force que vous ne pouvez même pas vous imaginer, puis on va voir si vous allez repartir en courant et si votre corps va être en bon état. Et vous risquez de passer plusieurs jours au lit. Un jour, je me souviens, malheureusement, une porte a claqué et je n'ai pas eu le temps d'enlever mon doigt juste à temps. Et là, quand c'était pas grand-chose, hein. Comparé à l'ensemble, aux centaines de membres qu'il y a dans mon corps, les centaines de membres, juste ce petit bout de doigt de rien, et la porte, elle a fait, bam, un coup sec. Alerte générale, je voyais des étoiles, des papillons, des choses, du bleu, du jaune, du vert, c'était mauve, c'était rouge, c'était orange, c'était violet, et puis je sentais mon cœur et tout mon corps qui se mettait en action pour essayer de sauver ce membre et de l'alimenter parce que ce membre était réellement en péril. Nous avons des interactions les uns avec les autres. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Et Paul va définir dans ses épîtres, dans de nombreux textes qu'on va aborder dans les dimanches qui viennent, les interactions, les relations entre les membres du corps, les uns les autres. Et dans cette, on va dire, ce serait un chapitre, les uns les autres, on va commencer par celui-ci dans Romains 16, et je vous invite à ouvrir avec moi l'épître aux Romains, bien sûr, vous l'avez vu sur le tableau. Romains 16, on va prendre au chapitre 16 les versets 16 et 17. Et vous allez voir, je commence avec ça, c'est le plus logique. On va considérer ensemble à quoi l'apôtre Paul pense quand il dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». On va voir de quoi il est question. En réalité, vous allez voir que c'est bien plus qu'une bise, c'est bien plus qu'un baiser ou une poignée de main, évidemment. Romains chapitre 16, vous êtes avec moi, les versets 16 et 17. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Là, on pourrait tenter de dire Amen. Parce que ça, c'est la règle à 99%. Mais il y a une exception que je vous expliquerai à la fin. Et Paul en parle tout de suite, parce que l'exception est claire, elle est unique, il n'y en a qu'une, mais elle est incontournable. Verset 17, « Je vous exhorte, littéralement, je vous supplie, je vous presse, j'insiste à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. » Et ces deux versets juxtaposés, en réalité, sont très forts parce qu'on va comprendre la réalité du saint baiser. Et puis, on voit que juste derrière, sur un cas très précis, l'apôtre Paul a dit « Ce que je vous dis, c'est valable pour tout le monde, sauf une catégorie de personnes. » Et avec cette catégorie, il n'y aura pas de négociation possible. On n'est pas débiles, oui, on est chrétien, mais pas crétin. On n'est pas naïf, on n'est pas sentimentaliste. Ça, ce point-là vaudra plus que tout le reste et on ne le négociera jamais. Je vous en parle en fin de message. Mais d'abord, on va considérer à quoi l'apôtre Paul fait référence quand il parle de ce saint baiser. Régulièrement, comme je vous l'ai dit dans les écrits de Paul et d'autres apôtres, on a cette expression allélon, en grec, qui est traduite selon vos versions par mutuellement, réciproquement, les uns les autres, qui parle de nos interactions, de nos relations les uns avec les autres pour que nous soyons toujours l'Église. On continue d'être l'Église au sens où Jésus, lui, il l'a pensé et il l'a toujours voulu. Pour comprendre le saint baiser, on va considérer d'autres textes, mais il faut déjà considérer le contexte de l'époque. Le saint baiser, c'était une pratique courante à l'époque de donner un baiser. On donnait un baiser, soit sur le front, soit sur la joue, soit sur la barbe pour un homme. Et ce baiser était souvent accompagné d'une accolade. nous, dans notre civilisation moderne, on se fait la bise pour se dire bonjour. Que on se faire la bise, ça signifie bonjour, mais qu'on se fasse deux bises ici, dans le midi, trois bises dans l'ouest, ou je ne sais plus où, et quatre bises comme dans le nord, s'il y a des nordistes ici, je ne sais pas, ici se font toujours quatre bises. Bref, on sait qu'aujourd'hui, c'est banalisé, ça signifie bonjour. Mais à l'époque, donner un baiser à quelqu'un, ce n'est pas rien. C'est un geste, effectivement, mais qui est très important, je vous ai mis ici, c'est un geste d'accueil. C'était une façon de montrer à la personne à quel point on l'accueillait, à quel point elle était considérée. En réalité, par le baiser, on exprimait à l'autre la valeur qu'il avait à nos propres yeux. Évidemment, vous avez compris, le but n'est pas de revenir à la pratique du saint baiser, parce que l'on se fasse un check quand on, avec les jeunes, ou que l'on se fasse 2, 3, 4 bises, ou qu'on se serre la main, ce qui nous importe, c'est la réalité spirituelle. Ce n'est pas le geste qui compte, vous avez compris. C'est la réalité spirituelle. On veut comprendre le principe spirituel, histoire que nos cœurs soient au diapason avec la pensée de Paul, avec la volonté de Jésus dans ce domaine-là. Et pour bien comprendre tout ce qu'il y a de spirituel dans ce saint baiser, la valeur de ce baiser, on va considérer, là je ne vous fais pas chercher, on va considérer rapidement ce que l'apôtre Paul enseigne juste avant. Vous savez qu'on ne prend jamais, jamais, mais alors absolument jamais, un texte en dehors de son contexte, et parfois même de contexte élargi, pour bien comprendre la signification des choses. Et pour avoir une bonne vue d'ensemble de cette vérité, il faut regarder un petit peu plus en amont. C'est dans l'Épître aux Romains que l'apôtre Paul va le plus souvent, comparé aux autres épîtres, employer ce mot à l'élone, les uns les autres, mutuellement, réciproquement. Et en réalité, sur les quatre derniers chapitres des Romains, il va employer 10 fois, 10 fois, les uns les autres, avec une injonction différente. Et ce que nous avons lu au chapitre 16, c'est un petit peu l'apothéose, c'est la conclusion de ce qu'il vient de développer. Le chapitre 16, c'est le 10e les uns les autres. Il y en a 9 juste avant. Et ça commence au chapitre 12. Après avoir exhorté, pressé, supplié, insisté, chapitre 12, verset 1er, verset 2, pour que chaque membre du corps, chaque disciple se donne, s'offre tout entier à Dieu. C'est la consécration totale. Une fois qu'il a insisté sur ce point, il va commencer ensuite à donner différents conseils pratiques pour les relations au sein de ce corps qu'est l'Église. Et puis ça commence au verset 5. Je vous ai mis 12, 5, 12, 10, etc. Il y en a 9. 12, 5. Il rappelle que nous sommes tous les membres les uns des autres. C'est comme si à ce moment-là, l'apôtre Paul disait « N'oublie pas la valeur de ton frère. L'autre en face de toi, c'est ton corps. Si vous avez un doute, vous venez me voir et je vous claquerai le petit doigt dans la portière, comme je vous expliquais tout à l'heure, et vous allez ressentir ce que c'est qu'un corps qui souffre quand un membre souffre. » Et là, l'apôtre Paul est en train de montrer que, oui, chaque membre compte, peu importe sa fonction, peu importe son positionnement dans le corps. Chaque membre est utile, même nécessaire, nous en avons besoin. Et là, à ce moment-là, l'apôtre Paul est en train de développer, comme dans 1 Corinthiens 12, il est en train de développer cette vérité, n'oublie pas la valeur de ton frère, n'oublie pas la valeur de ta sœur, il est, elle est aussi ton corps. Au même titre que tu es le corps, il est aussi ton corps. Et puis, il continue, il développe, et puis il arrive à autre chose. Par honneur, user de prévenance réciproque. Honneur, en réalité, c'est timé, dans le grec, qui signifie, là, on est vraiment dans la pensée. User de prévenance réciproque, timé, par honneur, nous parle du prix, de la valeur que l'autre a à nos yeux. Et des prévenances réciproques, c'est aussi le à l'élone, les uns les autres. Faites preuve de beaucoup de prévenance, les uns envers les autres, par honneur, c'est-à-dire à cause de la valeur que votre frère ou votre sœur a à vos yeux. Tout ça, en réalité, l'apôtre Paul est en train de développer la même pensée, mais dans des aspects pratiques différents. Verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » C'est ce fameux texte que l'on cite souvent, 15 et 16. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments à l'élonne les uns envers les autres. » Ici, le Seigneur me montre, il demande de ma part une attention particulière envers chaque membre de son corps, quel qu'il soit, sans favoritisme, sans distinction de personne. Il n'y a pas de distinction de personne. Sans préférence. Dieu n'a pas de préférence. À part le pasteur. On sait bien que le pasteur, c'est le chouchou du Seigneur. Il a une préférence. C'est normal, il est pasteur, quand même. Il n'y a pas... Alors, pour l'enregistrement, c'est une boutade, évidemment. Parce que vous avez vu que je souriais et que ce n'était pas vrai. Mais l'enregistrement, ils ne verront pas ma tête. En même temps, ce n'est pas plus mal pour eux qui ne voient pas ma tête. Pas de préférence. Pas de distinction. Le Seigneur ne peut pas, c'est dans sa nature, il ne peut pas t'aimer toi moins que toi. Il ne peut pas aimer l'autre plus que l'un. Ce n'est pas possible. Et frères et sœurs, dans toutes les églises où je suis passé, toutes les églises, même des pasteurs se font avoir. On dit, mais c'est vrai, on aime tout le monde. Mais dites-moi frère, c'est quand même normal qu'on ait des affinités, hein, ben oui. Et tout le monde dit, ah ben oui, c'est normal, il y a quand même des affinités dans l'Église. Non, non, et encore non, il n'y a pas d'affinité. Le Seigneur Jésus ne peut pas avoir une affinité avec toi et moins avec toi. Ce n'est pas possible. Les affinités, c'est un système mondain. L'affinité, si j'ai une affinité avec l'un, c'est déjà de la sélection. Je suis déjà sélectif. J'aime tout le monde. Mais j'ai une affinité avec lui. Non, si tu as une affinité, ce n'est pas de l'amour. L'amour de Dieu ne fait aucune distinction. L'affinité, c'est sélectif. Et puis l'affinité, c'est charnel. C'est versatile. Demain, faites bien comprendre aux gens avec qui vous avez des affinités que vous n'êtes plus d'accord avec eux. Et on verra l'état de vos affinités comparé à l'amour de Dieu. On verra qui va prendre le dessus. Les affinités, bien aimées, c'est là. Au ras du sol pour l'enregistrement. Merci, frère. L'amour de Dieu, c'est là. C'est élevé. Les affinités, c'est mondain. Les affinités sont charnelles. Et je ne suis pas appelé à avoir des affinités. Je sais, dans les églises, on aime bien, ça nous rassure parce qu'on est humain. On aime bien avoir des amis. Je suis désolé, frères et sœurs, je vous aime tous, très sincèrement, sinon je n'aurais pas quitté Manosque pour venir ici. Je vous aime sincèrement. Nous ne sommes pas amis au sens où le monde l'entend. Au sens spirituel, ça se développe, ok. Mais nous ne sommes pas amis. Nous cherchons les uns les autres dans l'Église, nous cherchons des affinités, nous cherchons des amis. Mais en réalité, quand nous faisons ça, nous nous leurrons nous-mêmes et nous rabaissons le niveau que le Seigneur avait lui-même établi quand il a dit « Vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Vous, chacun pour votre part, je vous considère bien plus que mes amis. Dans le monde, j'ai des amis. » Dans le monde, j'ai des affinités. Mais avec vous, frères et sœurs, logiquement, et vous les uns avec les autres, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes frères et sœurs du Christ ressuscité. Vous êtes frères et sœurs dans la foi. Vous êtes largement au-dessus. Et chaque fois qu'on cherche un système d'affinité ou d'amitié, on rabaisse le niveau de l'Église. Puis après, on s'étonne que ça marche pas si bien que ça, finalement, l'Église. C'est compliqué, les relations. Et oui, parce que les affinités, c'est charnel. Ensuite, j'avance, bien sûr. Ne devez rien à personne, on est dans la même pensée. 13.8, si ce n'est de vous aimer agapéo, on n'est pas dans l'affect, on est dans l'amour de Dieu agapé, l'amour sacrificiel, don de soi. Si ce n'est de vous aimer, allez-l'on, les uns les autres. Chapitre 15, verset 7, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et la pensée ici est très forte, je vous ai mis le grec ici, proslambano, en grec, qui signifie littéralement permettre l'accès à son cœur. Comme Christ vous a accueilli. Paul est en train de dire, accueillez-vous, c'est-à-dire permettez à vos frères, à vos sœurs, donnez-leur accès à votre cœur. Comme Christ vous a donné lui-même accès à son propre cœur. C'est ça que Paul est en train de développer ici quand il dit accueillez-vous. Et ce n'est pas juste bonjour ou une bise. Non, accueillez-vous, c'est-à-dire que vous avez réellement accès à mon cœur. C'est ça le sens de l'accueil. Et c'est pareil dans le baiser, c'était ce sens d'accueil, de recevoir l'autre dans son cœur. Ne nous jugeons plus les uns les autres pour qu'il y ait autant d'injonctions avec les uns les autres. Le texte ne le dit pas. Je ne sais pas ce qui avait pu se passer ou ne pas se passer dans cette église à laquelle Paul s'adresse, mais visiblement, il avait dû quand même, parce que l'apôtre Paul ne parlait pas pour parler, tout était inspiré, il y avait nécessairement... Il devait quand même y avoir eu quand même des sérieux problèmes relationnels, voire même conflictuels, avec aussi ces chrétiens d'origine juive. Ça a dû clasher un peu dans l'église, un peu beaucoup, je pense. Parce qu'il n'a pas dit, vous savez, ce serait bien de ne pas avoir un esprit de jugement. Non, non, il a dit, ne nous jugeons plus. Ça veut dire que dans l'église, il devait quand même y avoir un certain état d'esprit et qu'il fallait mettre un terme à tout cela. Ne nous jugeons plus les uns les autres. Nous recherchons la paix, l'édification, c'est-à-dire la construction mutuelle des uns des autres. Et au verset 5, 15-5, 15-14, ayez les mêmes sentiments, pas de favoritisme, pas d'affinité, les uns envers les autres. Chapitre 15, verset 14, soyez pleins de bonnes dispositions, toujours prêts à vous exhorter, c'est-à-dire à vous encourager, les uns les autres. Voilà ce que l'apôtre Paul a dans le cœur, ce qu'il a à l'esprit, lorsqu'il va développer, il va arriver à ce dixième les uns les autres qu'on a lu au chapitre 16, il a tout ça à l'esprit quand il leur dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Ça va ? Vous comprenez l'état d'esprit dans lequel Paul est en train de dire « Aspizomai, saluez-vous les uns les autres. » Voilà l'état d'esprit dans lequel vous devez être. En résumé, et on va voir malheureusement, je vais vous montrer dans la Bible deux exemples qui confirment cette vérité, mais ce sont des exemples, des contre-exemples, mais ça parle de soi. Mais en résumé, tout d'abord, dans la pensée biblique, se saluer, c'est se recevoir, s'accueillir, sans hypocrisie, sans préférence, sans favoritisme, jamais. Donner, c'est ça se saluer, c'est donner à l'autre accès à mon cœur comme Dieu m'a donné accès à son cœur. Parce que je suis conscient de la valeur de celui et de celle que je suis en train d'accueillir. C'est un saint baiser, c'est un baiser qui est agios, comme vous, qui est mis à part, parce que vous êtes mis à part pour Christ, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pour ça que ce baiser a une signification particulière, avec une grande estime, une considération, parce que c'est normal. Il est mon corps et un profond désir d'être une bénédiction, un encouragement pour lui. C'est ça, le saint baiser dans la Bible. Ça va ? On continue ? La vérité, cette vérité va être appuyée par deux exemples et malheureusement deux contre-exemples. Ah, j'ai perdu la main, frère, si on peut relancer. Je ne vous fais pas chercher, je vous ferai lire un autre texte après. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, à un moment, on voit un homme qui s'appelle Simon, c'est un pharisien. Et ce Simon, il invite Jésus chez lui, il le fait entrer, il invite Jésus à sa table. Et
Alors qu'il est à table avec Jésus, il y a une femme qui se permet d'entrer. Elle se met, vous avez certainement lu ça déjà, elle se met au pied de Jésus. Elle pleure, c'est moi qui le rajoute, elle pleure abondamment, elle pleure toutes les larmes de son corps, elle pleure beaucoup. Et elle mouille ses pieds avec ses larmes, elle mouille les pieds de Jésus, pardon. Elle mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, elle les essuie et elle les embrasse. Et pendant tout le temps du repas, elle ne cesse d'être aux pieds de Jésus. Et de lui embrasser les pieds. Et à ce moment-là, Simon qui avait invité Jésus à sa table, Simon, le pharisien, pense à lui-même, si cet homme était prophète, déjà il n'a même pas dit fils de Dieu, il avait fait venir Jésus comme simple prophète, et au final il a même un doute que Jésus soit même un prophète. Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Abomination de la religiosité. Et puis, alors que Simon n'a rien dit, il a juste pensé, mais Jésus, connaissant ses pensées, lui dit, Luc 7, 45, « Tu vois, Simon, lorsque je suis entré chez toi, tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. » Le lavage des pieds, je vous en parle la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est la même pensée. Ça va encore plus loin. Simon, tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds et tu ne m'as pas donné le baiser. Quand je suis entré, tu ne m'as pas donné le baiser. L'idée, ce n'est pas que tu ne m'as pas suffisamment salué, dit bonjour, tu ne m'as peut-être pas fait la bise. Non, la vérité, ce que Jésus est en train de souligner, parce que Simon, ce pharisien, était parfaitement au clair des us et coutumes de l'époque et de la signification des us et coutumes. Et quand il a fait venir Jésus chez lui, certes, et qu'il l'a installé à sa table, certes, il ne lui a pas donné d'eau pour se laver les pieds et il ne lui a pas donné le baiser. La vérité, ça signifie la vérité, Simon, c'est que je n'ai pas de valeur pour toi. Tu ne m'as pas donné le baiser, tu ne me considères pas, tu n'as pas d'amour pour moi. Par contre, cette femme qui a pleuré, qui a lavé mes pieds, qui a essuyé mes pieds et qui n'a cessé de les embrasser. Elle n'a cessé de baiser mes pieds pendant tout ce temps. Cette femme, elle, je compte énormément pour elle. Mais tu vois, Simon, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour comprendre que tu as une façade hypocrite et que je n'ai pas de valeur à tes yeux. Ce baiser montrait à quel point l'autre était précieux ou pas aux yeux de celui qui le donnait. Et dans le cas de Simon, ce pharisien, ce cas est triste, ce cas est grave, mais on pourrait dire qu'il avait au moins le mérite d'être clair. Parce que Simon, n'ayant pas donné le baiser, avait quand même tout de suite implicitement fait comprendre à Jésus ce qu'il pensait vraiment de lui. Ça avait le mérite d'être clair, c'était grave. Mais ça avait le mérite d'être clair, il ne lui avait pas donné le baiser. Par contre, il y a un cas beaucoup plus grave encore et qui véhicule le même principe, la même pensée. Et ça, on peut le lire ensemble, Matthieu chapitre 26. Malheureusement, c'est le baiser de Judas, c'est le baiser de la trahison. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 26. On va prendre les versets 47 et même jusqu'à 50. J'avais mis 49 au tableau, mais on va aller jusqu'au verset 50. Matthieu chapitre 26, les versets 47 à 50. Jésus, dans le contexte, Jésus est âgé de Gethsémané. L'heure de la croix est imminente pour lui. Et il dit à ses disciples, « Levez-vous, allons-nous-en, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et au verset 47, « Comme il parlait, comme Jésus parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui, qu'est-ce que vous lisez ? Je donnerai le baiser. C'est grave. C'est abject. Celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit : Salut, maître ! Et il lui donna le baiser. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Malheureusement et heureusement pour nous, amen, parce que ça c'est le prix de notre salut. Ce baiser de Judas, c'est le baiser de la trahison. Judas a eu le geste, il a eu la pratique, mais pas la réalité de cœur. Il a donné le baiser à Jésus, mais en réalité, ça faisait longtemps que Jésus n'avait plus de valeur pour lui. Jésus a-t-il eu seulement un temps de la valeur pour lui ? Ça, je ne sais. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus n'avait plus de valeur pour lui, si ce n'est juste les 30 pièces d'argent honteuses de trahison que ça pouvait lui rapporter. Quel décalage entre le geste, la façade, l'apparence hypocrite et la réalité du cœur. Le décalage entre le geste et la réalité du cœur. Bien-aimé, je souhaite que par la grâce de Dieu, ce ne soit jamais le cas. Si on me trahit, que l'on me trahisse. Je suis disciple de Jésus. J'ai profondément conscience que je traverserai tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les chemins de mon maître. C'est normal. Mais ce que je souhaite, c'est que je ne sois jamais trahison pour quelqu'un. Et que dans cette église que vous êtes, il n'y ait jamais de baiser spirituellement qui soit donné, alors que le cœur pense différemment. Parce que ça, c'est d'une gravité ultime, c'est d'une gravité extrême. De saluer un frère, de saluer une sœur avec une apparence, alors, comme dit l'expression, alors qu'on n'en pense pas moins. D'avoir le geste, d'avoir la démarche, mais d'avoir une réalité de cœur différente. Saluer un frère sans estime, sans considération, sans valeur, si ce n'est ce qu'il pourrait nous rapporter, si en étant malin, on arrive en le flattant à obtenir ce qu'on veut de lui si on l'utilise. Judas a été menteur dans l'attitude. Et malheureusement, cette apparence, cette duplicité, bien-aimé, nous devons être vigilants parce que ça, ce n'est pas la nature de Dieu, la nature de Jésus, c'est l'amour. Ce que nous venons de lire ici, c'est la nature du diable, c'est la nature de Satan, de se déguiser. De se faire passer, de montrer une apparence, un visage, une façade qui ne correspond pas au cœur. C'est de l'hypocrisie, c'est de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Le diable, dit l'Écriture, se déguise en ange de lumière. Il se déguise en agneau, alors que c'est un loup ravisseur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aussi en Romains 12, mais je ne vous ai pas mis le verset, mais que Paul insiste à un moment au sujet de l'amour, que Paul dit « Surtout, mes bien-aimés, que l'amour soit sans hypocrisie, pas de façade, qu'il doit être réellement l'amour de Dieu dans nos cœurs, répandu par le Saint-Esprit, bien sûr, et déversé dans nos cœurs par l'Esprit, et répandu sur nos frères. » Judas a été menteur dans l'attitude. C'était le baiser de la trahison. Et ça, c'est, je crois, une des pires choses qu'un enfant de Dieu puisse pratiquer. Non pas vivre, je vous dis, s'il faut choisir, je préfère le vivre, je préfère le subir, plutôt qu'un jour de le faire vivre à quelqu'un. Parce que je sais quelle est la nature infâme de l'ennemi qui amène les uns et les autres à mettre des masques dans les églises. Et ça, c'est insupportable. On est d'accord ? Je sais, l'heure est grave, mais il faut connaître ces choses et il faut que nos cœurs soient mis en lumière. Alors en résumé, mais j'ai encore un petit point pour vous faire comprendre l'ensemble de la pensée de Paul. En résumé, se saluer, c'est se recevoir, s'accueillir, sans préférence, sans hypocrisie, sans favoritisme. Je veux donner à l'autre accès à mon cœur, je suis conscient de sa valeur, parce qu'il est mon corps. Je veux lui accorder une grande estime, une grande considération et être un profond sujet d'encouragement pour lui. Voilà l'idée du baiser. Et puis, tout ça, c'est fantastique. Mais il y a quand même une exception, je ne l'ai pas mis au tableau, mais on va la relire ensemble. Il y a quand même un point important, et si l'apôtre Paul le souligne et qu'il est aussi formel dans l'impératif, nous devons aussi, bien aimé, nous comprendre ces choses. Je reprends, pardonnez-moi, l'épître aux Romains, et je relis avec vous pour donner tout le poids, toute la mesure de ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je relis le verset 16, Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Maintenant, on sait ce que ça veut dire. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous presse, je vous supplie, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. Le point important ici, c'est le verset 17 pour équilibrer le message à cette question, plutôt à cette vérité que nous devons considérer. Est-ce que je dois être comme ça avec tous ? Ben non. Il y a une exception. Il y a un cas de figure que Paul décrit ici. Mais attends Stéphane, tu te rends compte de ce que tu dis ? Est-ce qu'il va y avoir deux poids, deux mesures ? Oui, il y a deux poids, deux mesures. Une exception qui est extrêmement précise et nous devons la comprendre, mais il y a effectivement un 99% et il y a au 1% d'exception qui est dans le verset 17. Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc il y a une sérieuse barrière à ne pas franchir. Le saint baiser, oui, mais il y a une barrière à ne pas franchir. Ce sera toujours celle de la saine doctrine. Le mot division ici, bien évidemment, est largement clair. Les gens qui commettent des divisions, ce n'est pas que je ne les aime pas. Ce n'est pas que je ne pardonne pas. Moi, je veux bien tout pardonner. Je veux bien continuer à prier. Les orgueilleux, ceux qui commettent des divisions, etc. Je prie pour que le Seigneur les éclaire. J'ai beaucoup de peine dans mon cœur pour eux, pour ce qu'ils sont devenus, pour ce que certains deviendront, parce que l'histoire se répète sans cesse. Il y aura toujours des bons ouvriers, il y aura toujours des mauvais ouvriers, il y aura toujours des disciples, il y aura toujours des disciples qui malheureusement partiront de travers. Il y aura toujours, l'histoire se répète, vous regardez l'Ancien Testament, c'est une succession interminable. Bon roi, mauvais roi, bon roi, mauvais roi, un bon roi, un mauvais fils, un mauvais roi, etc. C'est une succession interminable. Et dans les églises, on voit des ouvriers extraordinaires. Et puis on voit aussi malheureusement des Alexandres, des Hyménées. On voit aussi malheureusement des Diotrèphes. Et on voit des éléments qui effectivement sont réellement malheureusement tombés dans l'orgueil et qui ont vraiment une mentalité de division, pour ne pas dire sectaire. Et là, le mot est suffisamment clair. Paul dit, le saint baiser, cet accueil, cette considération, oui, mais pas au prix de la saine doctrine. Oui, mais attention, pas s'il y a division dans le corps. 1 Corinthiens 12, qu'il n'y ait surtout pas de division dans le corps. La division, c'est l'œuvre de Satan, c'est son état d'esprit, c'est sa mentalité, se déguiser et ensuite diviser. Et là, l'apôtre Paul est clair. C'est pas que je ne veux pas aimer, c'est pas que je ne veux pas pardonner, c'est pas. Puis je vais dire bonjour parce que je suis poli. Bonjour. Au revoir. Bonne continuation. Enfin, s'il est possible. Mais on n'ira pas plus loin. Parce que je sais à qui je dois ouvrir mon cœur. Et je sais à qui je ne. C'est triste, mais c'est ainsi à qui je ne dois pas ouvrir mon cœur. Et puis l'apôtre Paul parle non seulement des divisions, au préjudice de la saine doctrine, mais il parle aussi des scandales. Ah tiens, là aussi il faut comprendre le mot scandale, bien-aimé. On n'étudie jamais les textes en dehors de leur contexte. Il faut comprendre le sens des mots que Paul a employés. Dans l'original, scandalon, il s'agit littéralement, un peu comme dans la pensée de l'enseignement pernicieux, il s'agit de ceux qui sont des occasions de chute pour leurs frères et qui vont les inciter à suivre une mauvaise voie, qui vont les inciter dans l'erreur ou dans le péché. Je veux être clair, parce que dans les églises, il y a eu des mauvaises interprétations, même des pasteurs, pardon, ont des mauvaises interprétations du mot scandalon en grec. Scandalon, il ne s'agit pas malheureusement du frère, de la sœur qui, parce qu'elle a la langue un petit peu trop pendue, certes c'est pas bien, mais parce qu'elle a la langue ou parce qu'il a la langue un peu trop pendue, malheureusement a fait encore une histoire dans l'église. Et puis nous on interprète, on dit non mais elle a péché. Hein. Et puis ça a fait une histoire dans l'église. Moi je lui dis plus bonjour. Hein. Le Seigneur Jésus a été très clair avec ses disciples. Si ton frère, les sœurs aussi, si ton frère a péché, va voir ton frère. Bien sûr, tu vas le voir avec toute la douceur, le respect, l'amour, la bienveillance qui correspond au corps de Christ. Va voir ton frère. Si ton frère t'écoute, tu as sauvé ton frère. Si ton frère ne t'écoute pas, tu prends avec toi deux ou trois témoins. Matthieu chapitre 16, c'est clair. Le protocole de discipline dans l'église. Prends avec toi deux ou trois témoins et va parler à ton frère. Si ton frère ne veut pas se repentir, s'il ne t'écoute toujours pas, et il faudra que tu informes le corps, il faudra que tu en informes l'église. Donc il ne s'agit pas d'une personne qui a péché, d'une personne qui a créé quelques histoires, qui fait beaucoup parler d'elle, ce n'est pas ça. Le scandale, le scandalon, ce n'est pas quelqu'un qui manque de sanctification, pour faire simple. Le scandale, c'est quelqu'un qui va être une occasion de péché, une occasion de dérailler, de chute, par un enseignement pernicieux. Ça va, je suis clair ? C'est ça le scandale. Et l'apôtre Paul dit, quand vous avez des gens comme ça en face de vous, qui égarent dans de mauvais enseignements, qui égarent, qui incitent à pécher, qui forcément, par voie de conséquence, c'est lié à mène de la division, eh bien, avec ces gens-là, oui, oui et oui, il y a deux poids, deux mesures. Bonjour, au revoir, à bientôt peut-être, je ne sais même pas si c'est souhaitable, mais vous n'avez pas accès à mon cœur, parce que je connais la valeur de l'Église, parce que je sais ce que Jésus a payé pour elle, et ce que vous faites est absolument inadmissible au sein de l'Église de Jésus. Alors je vais être poli, je vais être courtois, je vais être distant. Oh, je vous le redis, bien-aimé, je ne serai jamais en guerre contre personne, je ne lutterai pas contre la chair et le sang. Paul a été clair. Il n'y aura dans mon cœur, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de dispute de mots, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de règlement de compte. Je n'ai rien à régler avec personne. Mais il y a le verset 16, accueillez-vous, et puis il y a le verset 17, éloignez-vous. Oui, vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas stupide, et vous n'êtes pas des bénis, oui, vous ne devez pas tout gober. Oui, vous êtes amour, mais vous n'êtes pas sentimentaliste. Oui, vous êtes purs comme des colombes, mais vous êtes aussi, ah, vous avez le droit de le dire, hein, vous êtes aussi prudents comme des serpents. Et tout ça, c'est l'équilibre de l'enseignement. Alors je le redis, bien aimé, bien sûr, vous l'avez compris, le PowerPoint sera à votre disposition, tout sera sur le site internet, vous retrouverez ce message. Mais à part cette exception-là, nous, les uns avec les autres, nous sommes appelés à aspazomai, nous recevoir, nous accueillir, nous saluer, à l'élon, les uns, les autres, donner accès à l'autre, à notre cœur, à cause de la valeur que notre frère, notre sœur a pour nous, à nos yeux. Amen. Ça, c'est le premier élément. Et puis, on en verra d'autres aussi pour déterminer toutes nos relations à l'intérieur du corps. Amen. Mais pour ce matin, on va prier. Merci de votre attention. Soyez bénis. On prie ensemble, s'il vous plaît.